France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Dans les 2-3 années qui viennent, si on se donne les moyens, si on donne les moyens à Auguste, peut-être que ça permettra de développer son autonomie. Ça peut éviter 80 années de kiné qui arrivent, quoi.
Elle s'épanouit beaucoup dans ce stage. Je pense qu'elle n'a pas l'impression d'être chez le kiné. Ou... Elle joue, donc c'est génial.
Ici, on travaille la motricité, on va permettre à des nouvelles choses de se mettre en place. Mais surtout, surtout, ils se rendent compte que c'est possible pour eux.
Se tenir assis, attraper un jouet, s'habiller tout seul. La vie quotidienne est remplie d'obstacles et de défis pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Cette pathologie touche chaque jour 4 nouveau-nés et c'est la première cause de handicap moteur de l'enfant. Elle résulte de lésions du cerveau survenues pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement. Elle entraîne des troubles de la motricité plus ou moins importants, parfois aussi des troubles des apprentissages, voire une déficience intellectuelle. Comment prévenir la paralysie cérébrale? Comment limiter ses conséquences? Peut-on offrir aux enfants et à leurs familles l'espoir d'une amélioration? La recherche avance et des traitements médicamenteux, chirurgicaux ou rééducatifs se développent. En 2011, une équipe de l'Université de Louvain en Belgique a lancé une méthode de rééducation intensive qui mise beaucoup sur la plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à se réorganiser, à remodeler ses connexions. Pour cela, il faut agir le plus tôt possible, d'où la décision d'évaluer maintenant cette méthode sur les tout-petits. Et pour entretenir la motivation de ces enfants de 1 à 4 ans, rien de tel que le jeu. Quand le jeu réduit le handicap, une thérapie innovante contre la paralysie cérébrale, c'est un reportage signé Wafia Kenich. Invité de ce grand reportage, Alain Châtelain, président de la Fondation Paralysie Cérébrale. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous direz tout à l'heure tous les espoirs que vous placez dans la recherche. Vous financez des projets de recherche sur la paralysie cérébrale, dont celui que Wafia Kenich va nous présenter. Une méthode donc de rééducation intensive et ludique, testée sur de très jeunes enfants, Wafia.
Absolument, et testée avec l'aide de thérapeutes qui sont des kinésithérapeutes. Ils sont 2 par enfant. Ceux que j'ai rencontrés étaient donc 7 enfants et donc 14 kinés qui les entourent. C'est une expérience que moi j'ai vue à Bruxelles, mais qui est aussi menée à Brest et à Angers.
Et tout de suite, nous partons à Bruxelles.
Des jouets, il y en a en pagaille dans cette grande salle. Une petite cabane colorée, une marchande, des déguisements, plein d'objets qui feraient presque oublier les déambulateurs, la démarche hésitante ou la tête un petit peu trop penchée des 7 enfants qui sont ici pour 15 jours. Auguste, Aurore, Victor, Gabriella, Charlotte, Zacharia et Louis sont atteints de paralysie cérébrale depuis leur naissance.
Il y a les biscuits qui attendent Charlotte. Regarde, ils sont où ?
Avant que quelqu'un les attrape.
Vas-y.
Encore, super.
On tourne.
Encore.
Vas-y, Charlotte, tu peux le faire.
Ouais, super.
On se met sur le ventre.
Vas-y, les pieds, tourne les pieds.
Hop.
Ouais.
Et maintenant, on se met à 4 pattes. Et on va les amener.
À 4 pattes, Charlotte, à 4 pattes.
Oui, super.
Encore.
Tu mets des biscuits à moi.
Il a l'air tellement bon.
C'est au chocolat en plus, pas mal.
5 heures par jour, ils vont répéter encore et encore les mêmes gestes pour apprendre à réaliser certains mouvements de leur vie quotidienne. Yannick Bleyenhoft, chercheuse en neurosciences, est à l'origine de ce programme. La jeune femme de 40 ans a réalisé son rêve, améliorer la vie des enfants en situation de handicap. Améliorer par exemple le quotidien de Charlotte. La petite fille, pour prendre son goûter, doit d'abord s'asseoir en s'appuyant sur une main qu'elle apprend à utiliser.
Charlotte, c'est une petite louloute qui est extrêmement courageuse, elle est très très hypotonique au niveau du tronc. Hein. Vous voyez qu'au niveau des membres inférieurs, elle a plutôt de la spasticité, donc elle a une une hyperactivité musculaire qui va empêcher un certain nombre de mouvements à cause de ce phénomène spastique. Et on voit qu'au niveau du tronc, par contre, c'est l'inverse. Elle a peu de capacité au niveau musculaire, au niveau du tronc. Donc c'est ce qu'on appelle une hypotonie. Et donc, elle a tendance un peu à s'effondrer comme ça. Et donc, en venant ici, elle a des objectifs. Elle vous a dit, elle a 4 ans, elle est grande. Mais elle a des objectifs, par exemple, qui sont des objectifs de pouvoir se déplacer au sol ou encore de s'asseoir, donc à partir du sol, pouvoir se mettre toute seule en position assise. Et donc, ça veut dire que dans le parcours de cet enfant, c'est quand même quelque chose qu'à la fois ses parents et elle ont envie de pouvoir gagner, parce que c'est évident qu'en termes d'autonomie, le matin, si vous ne pouvez pas vous lever seul de la position couchée dans votre lit, il faut quelqu'un qui vienne vous aider à vous tirer pour vous asseoir, etc. etc. Elle travaille énormément, elle a beaucoup, beaucoup de détermination. C'est une enfant qui rentre très facilement dans le jeu, elle est extrêmement intelligente, elle adore toutes les histoires, etc., que les thérapeutes créent. Et donc, c'est vrai que c'est une grande joie de la voir évoluer au jour le jour.
Ah, c'est la robe de princesse qui gêne.
Attends,
hop là. Voilà. Tends tes jambes.
On tend les jambes. Super, encore un peu. Ouais, celle-là, elle est pas
mais bien les jambes. Voilà.
Ouais.
Charlotte,
est-ce que cette thérapie a de différent par rapport aux thérapies conventionnelles? C'est plusieurs choses. C'est évidemment l'intensité. On a les enfants ici 5 heures par jour pendant 10 jours, donc c'est extrêmement intense. Mais en plus, il n'y a pas de pause. Vous avez vu les enfants, on dirait une ruche. On est en train tout le temps de continuer. Vous ne voyez pas un enfant qui fait une pause. C'est normal, il n'y a pas de pause prévue parce que l'intensité, ce n'est pas juste le nombre d'heures, mais c'est aussi le fait d'être constamment en activité vers nos objectifs pendant le temps où les enfants sont avec nous. Donc ça, c'est un des premiers piliers, l'intensité. Et puis le second pilier, c'est ce qu'on appelle le contrôle moteur volontaire. Donc ça veut dire que vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de thérapeute qui va tenir un bras pour faire sentir à l'enfant comment faire, pousser sur une jambe pour sentir par où le mouvement doit aller ou tenir un bassin. On est dans ce qu'on appelle une thérapie « hands off ». Le principe, c'est vraiment un principe très similaire, par exemple, à celui de l'apprentissage d'un instrument de musique. Vous voyez, si quelqu'un doit apprendre à jouer du piano, hein, on ne va pas prendre le doigt de la personne qui apprend pour le bouger sur les notes, pour qu'il apprenne où sont les notes. C'est vraiment le contrôle volontaire avec le feedback de la note et des exercices progressivement de plus en plus complexes qui vont permettre d'apprendre à jouer du piano. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on apprend à jouer du piano aussi, ou du violon, etc. Parce que la représentation qu'on a au niveau de son cerveau, des doigts et de la tâche que les doigts doivent réaliser pour faire de la musique, elle va être modifiée. Ça, c'est la plasticité du cerveau. Notre cerveau est capable de se moduler pour nous permettre de réaliser de nouvelles tâches motrices. Eh bien, pour ces enfants, évidemment, on ne les met pas face à du piano ou du violon, mais les tâches qu'on leur propose, les objectifs, comme le fait de s'asseoir, comme le fait de mettre son t-shirt, comme le fait de pouvoir monter seul sur les toilettes, par exemple, eh bien, sont aussi difficiles pour eux que d'apprendre à jouer du piano pour le commun des mortels. Et ils ont aussi cette capacité de neuroplasticité, et c'est ça qu'on va aller chercher à travers ce contrôle moteur volontaire. Et on a vraiment eu de très très beaux résultats, parce que non seulement les enfants ont beaucoup progressé pendant les 2 semaines de stage, mais ils ont progressé énormément dans les 3 mois qui suivaient. Je pense que ça a été un déclic de voir tellement d'enfants qui n'ont quasiment plus accès à des rêves. C'est ça. Ici, on travaille la motricité, on va permettre à des nouvelles choses de se mettre en place. Mais surtout, surtout, ils se rendent compte que c'est possible pour eux. S'ils veulent arriver à quelque chose et si on met les moyens en place, tout est possible finalement.
Vas-y, chouchou. Allez, regarde.
Moi, je vois maman.
Maman, il faut qu'elle te voie. Vas-y, Louis. Mets pas à genoux, c'est sale par terre. Vas-y, on va là, avance, un pied, 1, 2, 3, 4, encore, pas à genoux, c'est sale, par terre, 5, 6, jusque dans les bras de Guillaume, jusque dans les bras de Guillaume, vas-y chouchou, moi je te tiens, tu vois,
regarde en haut, regarde en haut,
regarde, maman elle te filme, c'est pour montrer à papa, vas-y, va dans les bras de Guillaume, encore,
tu viens dans mes bras,
encore,
en grand petit pas,
1, 2,
ouais, regarde,
vas-y,
ça.
3, t'as oublié le 3. Tu fais 3 avec Guillaume. 3, ouais. C'est bien, bien à plat les pieds.
On va chez maman.
C'est enfin l'heure du déjeuner, les parents récupèrent leur enfant. Louis retrouve sa maman.
Ça a été.
Oui.
Ah, il a beaucoup dessiné aujourd'hui.
Ah.
Donc je m'appelle Marion, j'ai 29 ans, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi qui est né avec 2 mois et demi d'avance. Quand il est né à sa naissance, ils ont vu, les médecins ont vu qu'il avait une lésion cérébrale. Et après, au fil du temps, on s'est rendu compte que les conséquences de cette lésion allaient être moteurs. On ne savait pas après si c'était cognitif. Enfin, ouais. Vraiment, on était dans le flou depuis sa naissance. En apprenant cela, j'étais perdue. Perdue parce que les médecins eux-mêmes ne savaient pas quelles conséquences ça aurait sur sa vie, même 2 ans après ou pour plus tard, comment il évoluerait. Nous, tout de suite, on a posé la question de fauteuil roulant, parce que s'il y a un an, il ne sait pas marcher, ou si, il ne savait même pas se tenir assis, encore moins faire de 4 pattes. Donc, ils nous ont dit, on ne pourra pas vous dire s'il marchera, s'il ne marchera pas, comment il marchera. Donc, vraiment, une incertitude. Donc, j'ai pris mon ordinateur, mon téléphone, Internet, réseaux sociaux, et puis j'ai été m'informer, puisque les médecins étaient dans le flou tout le temps. Donc, on a été chercher sur les réseaux plus d'informations. Alors, sur les réseaux sociaux toujours, j'ai eu connaissance il y a quelques temps de cette thérapie, mais à l'époque, c'était plus de 6 ans. Donc, je l'ai laissé de côté, jusqu'au jour où j'ai vu qu'ils auraient pour les tout-petits. J'ai envoyé le dossier et il a été accepté. Ils ont trouvé un binôme et les kilomètres ne m'ont pas fait peur. Traverser la France... Et franchement, je ne regrette pas parce que c'est génial. Ça fait 1 semaine et 2 jours. Il arrive à s'asseoir correctement parce qu'il utilise une position dite W qui abîme énormément ses hanches et ses genoux, les jambes écartées de chaque côté. Et là, il arrive à s'asseoir autrement, quoi, qu'en tailleur où ça lui tire dans les membres, dans les jambes, dans le dos. Donc c'est génial. Là, on le met sur le banc, il arrive à se redresser droit alors qu'avant il était tout courbé. Il mange correctement, il arrive à tenir son crayon de la bonne manière et pas grossièrement. Là, ils m'ont dit que ce matin, il avait mis son pantalon tout seul. Enfin, c'est génial. Et ça, en même pas 2 semaines, quoi. Puis il adore venir. Il donne toute son énergie parce qu'il aime ce qu'on lui apprend. Et pour lui, c'est même pas d'apprentissage, c'est du jeu. Tout à l'heure, en sortant de la sieste, il m'a dit « Tu vas voir maman, tu vas être contente. » Ouais, il faisait pas de vélo il y a 10 jours. Et là, il arrive à faire du tricycle. Et « Ah maman, je sais faire du vélo. » C'est une fierté, quoi. Il est fier de lui.
Et on va l'attraper. Un, deux, trois, soleil. 1, 2, 3. Soleil.
Ah, allez, allez, allez.
Ça va.
Continue.
Vas-y. Lâche-moi. Vas-y, prends ton équilibre.
Avance. C'est la fin de la journée, Auguste a travaillé 5 heures d'affilée. Son père, Simon, attend sagement à l'extérieur du lieu du stage, et c'est la règle. Les parents ne doivent pas assister aux activités, ils constatent juste les progrès réalisés par leur enfant au fil des jours.
Comment c'était cet après-midi ?
C'était bien.
Oui, qu'est-ce que tu as fait ?
Je me suis debout, j'ai fait un pas.
T'as fait 2 pas même. T'as fait 1, 2. Trop fort.
Un pas et 3 pas et c'est tout.
Et c'est bien ?
Je prends mon petit goûter.
Le soir, il met quand même un petit moment à redescendre, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'ils sont hyper, hyper sollicités. Donc on essaye de passer sur des temps un peu plus calmes, des histoires. Et puis en fait, il va pas spécialement raconter tout ce qu'il a fait dans sa journée, mais nous on va le voir, par exemple, quand il va descendre lui-même de sa chaise, chose qu'il faisait pas avant de venir ici il y a un peu plus d'une semaine, quoi. Ça permettra à Auguste de développer son autonomie, et nous, on va dire, dans le sentiment de culpabilité qu'on a, quelque part, de se dire, on a tout fait pour lui laisser sa chance, quoi. Qu'il puisse aller au bout de ce qu'il peut aller. Ça, c'est important pour nous, et pour lui, bien sûr, mais voilà. Il est touchant, c'est dur de parler de son enfant. Il est incroyable, en fait. Il a une énergie folle. C'est des enfants qui sont à qui on va demander 10 fois plus qu'aux autres. Et ils donnent tout, quoi. Ils ont un courage. C'est incroyable. Une joie de vivre. C'est des enfants, ils se plaignent jamais. C'est fou, quoi. Après, on a aussi de la chance qu'autour d'eux, il y a quand même beaucoup de bienveillance, tout ça. C'est bluffant comment en une semaine et un jour maintenant et une matinée, ce qu'ils peuvent ingurgiter et faire derrière, c'est impressionnant. Mais espérons qu'un jour, avec toutes les preuves qu'il va y avoir, parce que bon, nos enfants sont des cobayes, on est bien content que ce soit eux les cobayes, mais espérons que, bah, que oui, que ça se déploie en France, en Europe, dans le monde. Enfin, il y a mon fils qui en a besoin, mais on est des centaines de milliers de familles dans cette situation et c'est incroyable qu'on ait pas ça à proposer à côté de chez soi, quoi. Malheureusement, dans le monde du handicap, il y a un côté égoïste parce que on sait que la demande est énorme et un stage comme celui-ci, on a envie que ce soit notre enfant qui soit pris. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça se déploie, cette solution-là ou d'autres, s'il y en a d'autres qui marchent aussi, mais il faut que ça s'ouvre. Dans les 2-3 années qui viennent, si on se donne les moyens, si on donne les moyens à Auguste, peut-être que ça peut éviter 80 années de kiné qui arrivent, quoi. Et donc, on a du mal à comprendre pourquoi ça avance, entre guillemets, si lentement.
Lève les mains, enlève les mains. Voilà. C'est bien. Oh.
Tu peux le faire.
Allez, au revoir, on l'a fait hier. Tu peux le faire, tu sais le faire. 2.
Les animaux, pour arriver jusqu'aux animaux, va falloir faire plus de pas, au revoir. Ok, tu peux le faire. Allez, zou, on se redresse.
Hop là. Hop, et on repart.
C'est parti. Ouh,
vas-y, championne.
Les pieds écartés pour commencer.
Bien écarté.
1, 2, 3, glaçons. Ouais. Allez, au revoir, on y est presque.
Tu sais faire plus. Nous, on sait que tu es une super championne.
Écarte bien les pieds. Écarte.
Écarte encore plus.
Oui, ça, c'est bien.
6.
7.
Ok.
Bien.
Ok, on arrive aux animaux. Ouh, les bisous, sont contents de te retrouver.
Cette méthode est nouvelle. De jeunes thérapeutes sont présents pour apprendre à l'utiliser, comme Léa, une jeune kiné qui exerce à Lyon.
On voit beaucoup de progrès et j'ai eu la chance de faire un précédent stage. Et ce que je trouvais assez fou, c'était la confiance en eux après. Et de pouvoir montrer leurs capacités et ce qu'ils arrivent à faire et les progrès qu'ils arrivent à faire. Ils ont bien conscience de leur handicap. Et pourtant, il y a une confiance suite au stage qui s'installe et qui est hyper chouette à voir. Et je pense que c'est assez controversé parce que c'est peu connu et le côté méthode intensive fait peur aux gens. Je me souviens, j'étais à un congrès et c'était un cadre soignant qui disait « Mais vous les éduquez comme des chiens avec le sucre. À donner la papate. » Et en fait, je pense que vraiment, c'est une méprise par rapport à ça. Et on les voit comme si on les dressait et qu'on leur faisait répéter le même mouvement. Alors que le but, c'est vraiment d'être le plus ludique possible et que justement, on rate tout si on n'est pas du tout dans le ludique.
On va se rendre compte.
Lui dans sa sœur maintenant.
Allez, lance-en doucement.
Lui dans sa sœur. On s'arrête ici, stop. Stop. Tu lui lances un sort. Avec tous les doigts. Ah, abracadabra.
Crocodile.
Oh, crocodile.
Oh, crocodile.
Charlotte joue à la magicienne. Elle doit avancer et jeter des sorts avec sa baguette magique, entourée des deux kinés de son équipe. Ce jeu est en fait un exercice qui l'oblige à se tenir debout sans tomber, en lâchant son déambulateur d'une main. Sa maman, Amélie.
Elle s'épanouit beaucoup dans ce stage. Elle joue, donc c'est génial. Parce que on est habitué à avoir nos séances régulières de kiné tout le temps qui se répètent. Et là, je pense qu'elle n'a pas l'impression d'être chez le kiné. Et là, elle joue. Alors, ça s'apparente un petit peu à l'école, mais avec plein de jeux. Et en plus, on l'encourage beaucoup. Donc, elle arrive des choses. Et je pense que c'est très, très valorisant pour l'enfant. Alors, c'était le 3e jour du stage. Et elle m'a dit, ça, moi, je peux faire. Après, elle m'a regardée, puis elle m'a dit, mais je peux tout faire. Et c'était la première fois que j'entendais ça dans sa bouche de petite fille. Parce que même si elle ne le verbalise pas, mais je pense qu'elle se rend compte quand même de ses difficultés, qu'elle n'arrive pas à faire les choses comme les autres enfants. Et je pense que ça joue énormément sur sa confiance. Et elle a besoin qu'on l'encourage et pour qu'elle y arrive et qu'elle aille plus loin. Et donc en tant que parent, on le fait, Mais le fait que ça vienne peut-être d'autres personnes, dans un autre contexte, ça l'apporte. Et oui, elle parle plus. Elle ose plus s'exprimer, dire les choses. Et... Non, je la sens vraiment bien pendant ce stage. Elle se déplace plus à quatre pattes, parce que ça, c'était un de nos objectifs. Elle a commencé tout doucement pendant le confinement là, à faire du quatre pattes. Et là, maintenant, elle est plus sûre d'elle. Un deux jours, elle m'a dit « Allez, maman, on fait la course à quatre pattes ?» Bon, passé, ouais. Elle arrive à marcher un peu plus avec son déambulateur, où finalement, on lui a enlevé des aides qu'elle avait. Alors, les roues qui ne bougeaient pas, le petit siège pour qu'elle s'adosse. On a tout enlevé pour qu'elle se lance et elle y arrive beaucoup mieux. Elle essaye de se mettre assise seule. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on travaille depuis qu'elle est toute petite, toute petite. Et pour l'instant, ça coince. Et là, elle est à allez, 75% de le faire toute seule. Il manque vraiment pas grand-chose. Donc c'est super. Elle prend conscience de son bras, que son bras peut aider à pousser, à se relever. Et avant ce bras-là, elle l'utilisait pas. Elle voyait pas trop à quoi ça servait. Hier, après le stage, parce que finalement, voilà, elle est un petit peu fatiguée, mais en 10 minutes, c'est reparti. On a passé une heure sur une petite aire de jeu où elle était autonome. Elle passait d'un endroit à un autre en se tenant. Elle jouait dans le sable ou elle jouait avec ses deux mains. Enfin, elle n'aurait jamais fait ça avant.
La détermination de ces enfants est incroyable. Ils font et refont des mouvements parfois difficiles pour eux. Et dans l'équipe, on sent une bienveillance. Jamais de non, jamais de ce n'est pas bien. Quand un geste est mal fait, c'est le thérapeute qui s'adapte et ce n'est pas l'enfant.
Continue, écarte encore.
Voilà, voilà, ça c'est super, beaucoup mieux, beaucoup mieux. L'idée c'est qu'elle doit être capable de mettre un t-shirt à manches longues. Et donc la difficulté c'est de retrouver la manche pour le moment. Elle est un peu perdue. Donc tous les jeux là, vous allez retrouver des morceaux de jeu dans les chaussettes. Ça l'aide vraiment à orienter la main et à sentir sans regarder.
Et ça, c'est la maman qui vous l'a dit, qu'elle avait du mal avec les t-shirts à manches longues.
Alors c'est un objectif que la maman a défini au départ. Et puis nous, on a entraîné l'objectif. Et on observe que la dernière chose qui reste complexe pour elle, c'est ça. Plusieurs fois par jour, Aurore va changer de t-shirt pour se déguiser. Elle se transforme en reine des neiges, en Superman, en pirate, tant de choses. Et c'est au moment où elle enfile les différents hauts de déguisement qu'on réalise effectivement qu'elle a encore du mal à orienter.
Et tout à l'heure, vous disiez au thérapeute qui était avec elle de ne pas trop la solliciter sur la marche. Là, pourquoi ?
Mais simplement parce qu'elle a déjà marché en arrivant ce matin sur un sol qui est plus qu'instable. Et donc, elle est assez fatiguée. On le voyait en entrant ici. Elle avait, au lieu d'avoir une marche comme elle l'a acquis les jours précédents avec les pieds relativement écartés qui donnent la possibilité d'avoir une base de sustentation large, elle avait de nouveau les pieds beaucoup plus rapprochés. Et elle avait tendance légèrement à les frotter sur le sol, ce qui est vraiment un signe de fatigue. Donc c'est pas dans ces conditions-là qu'on veut la mettre. Quand on continue à entraîner la marche, on veut qu'elle soit dans des conditions où elle a le plus de chances de faire un grand nombre de pas et de se sentir compétente dans ce qu'elle est en train d'apprendre.
Je pense que les thérapeutes sont vraiment très très proches de l'enfant, ce qui leur permet de se sentir vraiment en confiance.
Mélissa, la maman d'Aurore.
Et je pense pas qu'ils aient notion à leur âge d'un objectif que les parents aient fixé. Donc, contrairement à la thérapie où quand on rentre chez le kiné, bon, aujourd'hui on va faire, on va essayer de se faire du quatre pattes ou on va essayer de faire, de marcher tant de distance. Là, elle arrive, elle va pour jouer, elle a pas notion que c'est du travail et que c'est de la rééducation. Et c'est surtout que le thérapeute et les techniques sont adaptées et revue au fur et à mesure du stage, en discussion avec les parents. Truc tout bête, on m'a demandé de rapporter une brosse à dents vraiment adaptée pour qu'elle puisse la tenir convenablement aussi, parce qu'elle n'arrivait pas à orienter la brosse à dents comme il fallait sur les dents. Donc elle brossait plus les joues, la langue que les dents. Donc aujourd'hui, elle arrive presque à le faire de manière autonome. Donc c'est super. Pour quelqu'un de l'en bas, ça semble peu important. Mais pour nous qui vivons au quotidien, devoir prendre le temps de brosser les dents de notre enfant qui a 4 ans, alors que le grand frère savait le faire depuis ses 2 ans, c'est une grosse, grosse frustration. Alors que aujourd'hui, une frustration en moins à gérer. Et c'est génial. Donc ça va me permettre aussi de pouvoir passer 2 ou 3 minutes supplémentaires avec mon grand le matin plutôt que de le passer avec sa sœur. Et il y en a un qui sera bien content.
Proposer des pastels, je pense.
Ouais. La taille, c'est important. Parce que si c'est trop petit, je pense que c'est pas...
Peut-être qu'on peut transférer d'ici un jour ou deux avec des gros marqueurs. Qu'est-ce que vous pensez?
On pourrait.
Essayez de voir. Ou t'as peur qu'ils repartent ici?
Oui, j'ai peur qu'ils repartent. Peut-être qu'on va essayer avec les crayons, avec des marques pour les
adapté,
doigts.
Si oui. Jamais.
Daniela Heppner est kiné et chercheuse. Elle fait partie de l'équipe de recherche. Aux côtés de Yannick, elle supervise ce stage.
Il y a certaines choses, par exemple, que les parents demandent. Si on a un enfant qui n'est pas capable de se mettre assis tout seul, découché par terre, à assise, et les parents me demandent de le faire marcher, il n'est pas prêt pour le faire. On n'est pas encore là. Parce qu'il faut passer pour des autres étapes avant de pouvoir se déplacer tout seul de manière autonome ou avec walker. Et donc, on parle beaucoup avec les parents en disant, OK, quel est le step qui correspond? On comprend bien qu'il y a des expectatives assez hautes pour certains parents. Et je suis tout à fait partante de pousser au maximum possible les enfants. Mais je suis aussi très honnête en disant, on ne fait pas de miracles. Ici, c'est d'une part la famille qui doit soutenir, d'autre part... Nous, en tant que thérapeute, qu'on doit faire tous nos efforts possibles. Mais en troisième chose, c'est que l'enfant doit avoir envie de faire. Si c'est une chose trop difficile, il va se frustrer super vite et il ne va pas vouloir faire. On essaye d'aller dans le maximum de son effort sans le frustrer. Donc on donne un peu et après on lâche. On demande et on lâche. Et on est en train de jouer comme ça tout le temps. Mmh. Et ça, peu importe l'âge, hein. On le fait avec les tout petits, mais aussi avec les grands. Donc, parfois, il y a certains objectifs que les parents ont envie de faire parce que chez les kinés ou chez les ergots, en thérapie conventionnelle, les collègues, de manière analytique, ont dit « Ok, il faut augmenter l'amplitude de l'épaule, des mouvements de l'épaule ou l'amplitude du coude ou des poignets. » Ce n'est pas incorrect. C'est simplement que nous, on travaille sur deux objectifs fonctionnels. Sauf des activités concrètes que l'enfant et les parents ont envie d'acquérir. Donc, si l'enfant a déjà une stratégie développée, par exemple, boire avec 2 mains, ça c'était l'objectif demandé. Par contre, l'enfant sait boire très bien, est très stable, très fonctionnel, seulement avec 1 main. C'est vraiment compliqué de faire changer une stratégie à un enfant si la stratégie qu'il utilise fonctionne. C'est pas logique pour personne. Si on dit à une personne qui écrit avec la droite, alors il faut écrire avec la gauche, parce que comme ça, tu vas être plus ambidextre, il n'y a pas vraiment de sens. Parce qu'on a déjà une latéralité. Avec les enfants, c'est pareil. On a déjà développé une stratégie qui fonctionne. Alors, à quoi ça sert de la changer seulement pour avoir plus d'amplitude articulaire? Donc, je dis, qu'est-ce qu'on peut proposer pour aller dans la même idée, dans le même type de mouvement, on va dire dans ce cas bimanuel ou augmenter l'amplitude de l'épaule, dans des choses concrètes. Donc je demande plus d'informations. Alors, quelles sont les activités qui sont difficiles à faire à la maison où ils demandent, par exemple, plus d'amplitude de l'épaule, des coudes, des poignets? Donc par exemple, ça fonctionne souvent que les parents disent « Ah oui, non, alors dans ces cas-là, par exemple, c'est difficile à mettre le t-shirt. » Et là, on est d'accord parce qu'il faut... soulever les bras, ou lever les bras vers le haut pour passer les manches, comme Aurore, ou la tête, etc. On est d'accord que pour ça, il faut avoir plus d'amplitude des épaules. Mais on ne travaille pas sur l'amplitude des épaules, on travaille sur les t-shirts. C'est plus concret pour l'enfant, c'est plus facile pour vraiment l'entraîner. Il y a des sens pour l'enfant et pour les parents, c'est aussi un win-win.
L'équipe blanche.
Moi, je suis blanche.
Et est-ce que vous êtes prêts à l'équipe rouge? Et est-ce que vous êtes prêts à l'équipe blanche?
Oui.
Alors, c'est parti. 3, 2, 1, on se met assis. Vas-y, 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 vas-y
Une nouvelle façon de faire et aussi de penser le soin, une petite révolution dans le monde de la kinésithérapie.
On était tous formés à l'époque, même nous quand on était à l'université, on était tous formés sur l'idée qu'il faut établir les objectifs selon une façon de faire analytique, un mouvement, un degré de liberté ou l'amplitude ou des choses comme ça, très 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 analytique. Et ici, on est en train de changer la vision. On est en train de voir la thérapie du point de vue de la personne. Qu'est-ce que la personne a besoin? La personne n'a pas besoin de plus d'extension de genoux. Il a besoin de marcher ou de se mettre debout. Et alors, cette façon de penser que c'est tout à fait à l'inverse, c'est une vision plus biopsychosociale, en partant de la personne et pas en partant de médecin ou de kiné ou de thérapeute, qui est difficile à comprendre.
Et notamment mais on quand, est il s'agit, quand il s'agit d'enfants, parce que souvent on n'écoute pas les enfants.
Oui, c'est ça. C'est encore pire. C'est encore plus difficile. Parce que c'est toujours les adultes qui vont déterminer qu'est-ce qu'il faut faire avec cet enfant. Et donc là, on est un peu en conflit. Parce que d'une part, on est du côté des parents. Les parents ont besoin de certaines choses à la maison ou à l'école. Et les thérapeutes, souvent, ils pensent plutôt en analytique. Mais il n'y a pas une conversation, il n'y a pas un dialogue qui s'est fait de manière souvent entre les deux choses. Et nous, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans les deux. On est entre l'une et l'autre. Parce qu'on est capable de dire, oui, mais avec cette activité, on gagne telle quantité de choses en analytique. Donc on peut parler avec ça avec les collègues et avec les parents. On peut dire aussi, en fait, tous ces mouvements qui manquent vont aider cet enfant pour gagner dans le t-shirt ou des activités fonctionnelles.
Quelle a été votre rencontre que vous n'oublierez jamais avec un enfant depuis que vous faites les stages?
Pour mon premier camp, c'était le premier camp de tout, et on a beaucoup essayé avec un petit garçon de 6 ans qui marchait tout seul, et il était dyskinétique, donc il bougeait constamment. C'est un manque de contrôle de mouvement. Et il a réussi à marcher beaucoup plus stable, quelques mètres, sans se tenir de rien, sans utilisation de déambulateur ou d'autres appareils d'aide. Et il est venu après, ça c'était il y avait 6 ans, et après il est venu à 11 ans. Et à 11 ans, il s'est rappelé de nous, et il marchait tout seul, il est devenu vraiment indépendant, et il venait avec des idées de « Alors, maintenant que je suis plus autonome, avec des mots très adultes, je suis très autonome, alors je veux bien, parce que je voulais faire chef, et alors je veux bien apprendre à cuisiner, alors il faut que j'apprenne avec les couteaux, les marteaux. » Donc, il était vraiment un enfant, c'était un petit poussin, on va dire. Je l'ai eu à 6 ans et après il revient à 11 ans, déjà avec une ouverture d'esprit et en sachant qu'il n'était pas coincé sur l'handicap. C'était un enfant comme n'importe l'autre et qui pensait à accomplir ses rêves, quoi. Pas n'importe comment.
Quand le jeu réduit le handicap, une thérapie innovante contre la paralysie cérébrale, un reportage de Wafia Kenish avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage aujourd'hui, Alain Châtelain, président de la Fondation Paralysie Cérébrale. Alors, on vient d'entendre Daniela Heppner parler de ce jeune garçon qu'elle a revu au bout de 5 ans et qui avait très bien évolué. Avec cette méthode, Alain Châtelain, est-ce qu'on peut vraiment parler de progrès durable sur le long terme?
Alors, je pense que c'est ce que s'est donné comme objectif l'équipe qui nous a proposé ce programme de recherche. Notre but, on s'est réunis, parents et professionnels, pour créer une fondation pour la recherche, parce qu'il n'y en avait pas en France de fondation qui finançait la recherche sur la paralysie cérébrale. Donc, notre objectif, c'est effectivement de donner des moyens à des équipes, s'il y a des équipes qui ont des moyens, elles peuvent faire des projets, évaluer des progrès. Et l'objectif de cette étude, c'est effectivement de montrer si, chez le tout petit, entre 1 et 4 ans, quand on intervient avec cette méthode intensive, ludique, enfin toutes les caractéristiques qui ont été décrites, est-ce que le pronostic va être différent de celui d'enfants qui suivent des traitements plus conventionnels et surtout moins intensifs. Donc oui, c'est notre espoir. Il y a déjà des bons résultats qui ont été montrés chez des enfants plus grands. Mais effectivement, quand on est à 6 ans ou plus, les enfants d'âge scolaire, on est quand même à un âge où le cerveau, la maturation du cerveau est quand même passée par des étapes préalables. Et donc l'idée, c'était d'intervenir au moment où le cerveau est le plus capable d'adaptation. Donc est-ce que ces progrès seront maintenus? Ce que vous avez gagné dans votre vie, vous le gardez pour toujours. Vous le gardez pas forcément en termes d'activité. Vous avez des enfants qui deviennent adolescents, qui peuvent marcher au prix d'efforts importants et qui finalement vont finir par utiliser plutôt un fauteuil roulant. Mais la capacité qu'ils ont eue d'atteindre leurs objectifs, d'être avec des copains, de réaliser quelque chose, ça, ils le gardent toute leur vie et c'est une force qu'ils ont en eux.
Là, a priori, ces stages, on est censé en refaire régulièrement?
Alors, ça fait partie des choses qui vont être déterminées dans ce programme. Ce que vous avez vu là, c'est tout ce qui est l'activité ludique autour des enfants dans un stage avec une équipe merveilleuse. Il y en a quatre comme ça dans le projet qui sont toutes formidables. Il y a aussi derrière toute une méthodologie avec de l'évaluation par IRM des enfants, de l'analyse du mouvement numérique, des façons d'enregistrer l'activité électrique de leurs muscles, des évaluations précises de leurs résultats. Il y a aussi des modèles qui se font chez des petits animaux pour voir comment ça se passe aussi chez eux et justement pouvoir tester plus facilement chez des petits animaux la répétition des besoins de répétition. Donc ça fait partie des choses qui doivent être évaluées. Il est probable que il ne suffit pas une fois à 3 ans ou à 4 ans de faire quelque chose, que probablement il y aura un aspect d'objectif qu'on se fixe et puis de se concentrer sur cet objectif. Mais le caractère intensif fait partie des aspects clés de cette thérapie.
Et une fois rentrés à la maison, est-ce que les parents sont censés continuer de solliciter beaucoup leurs enfants? On leur donne des consignes, Wafia?
Oui, absolument, on leur donne des consignes. Par exemple, il y avait une petite fille qui apprenait à manger avec une cuillère. Et surtout, ce que disait Yannick, c'est qu'ensuite, il y a un briefing, un débriefing. Il y a vraiment un lien constant avec les parents. Et elle lui disait, surtout, vous ne lui donnez pas, vous ne faites pas à sa place. Parce que comme tout parent, qu'il soit en situation de handicap ou pas, effectivement, on a tendance à vouloir aider le petit. Et donc là, c'était la consigne, c'était vous la laissez faire par elle-même.
Mais alors, quand on a fait une expérience comme celle qu'on vient d'entendre, qu'on rentre chez soi et qu'on retrouve le kiné habituel, il doit y avoir un choc des méthodes. Comment est-ce que ça peut se gérer, ça, Alain Châtelain?
Alors, il faut comprendre que beaucoup de ces familles sont dans un grand isolement. Les personnes que vous avez entendues au début parlent des réseaux sociaux où ils vont chercher de l'information. Il y a beaucoup de familles qui sont très isolées dans leur quête parce que c'est très difficile d'accéder à un spécialiste. Les délais de rendez-vous peuvent se compter en années et pas au lieu de se compter en semaines. Donc, si vous voulez, c'est difficile de rencontrer les équipes. C'est très hétérogène sur le territoire. Il y a des endroits qui ont des équipes qui font de la recherche active, etc. Il y a d'autres endroits où il y a des gens très dévoués, mais qui sont sur des choses anciennes qui font depuis toujours. Et puis il y a des endroits où il y a rien. Quand vous cherchez un kinésithérapeute, je connais beaucoup d'endroits où vous allez faire un bilan à l'hôpital et en sortant vous demandez qui vous allez voir et on ne sait pas vous dire. Donc, oui, qu'il y ait des chocs des méthodes, c'est sûr. Les parents que vous avez vus là, je pense que quelques-uns sont là un peu par chance, parce qu'ils étaient en contact avec la bonne équipe qui faisait la recherche et qui leur a proposé. Mais la plupart ont beaucoup cherché partout, se sont mobilisés pour venir là, quoi. Donc, oui, il faut vraiment penser à l'isolement. Il faut penser que ce besoin n'est pas pris en compte du tout par les pouvoirs publics.
Alors vous parlez donc de cet isolement. Les parents sont peu préparés à ce qui va leur arriver. C'est-à-dire que on a entendu Marion, hein, la maman de Louis, ce petit garçon qui sait faire du tricycle maintenant. Elle dit on était dans le flou depuis la naissance. Est-ce que les médecins ont peur d'affoler les parents à la naissance, au moment de l'annonce, ou est-ce qu'il y a une réelle difficulté à émettre un pronostic, puisque c'est la toute première chose, le moment où on découvre
Alors, je pense qu'il y a deux aspects, et il faut reconnaître... je vais dire des choses peut-être pas très correctes, mais... Vous avez, je dirais, trois types de situations. Vous avez des situations où vous avez beaucoup de bienveillance de gens qui ne connaissent pas parce que ils ne sont pas préparés. Quand vous êtes médecin généraliste, cette fréquence, c'est le handicap moteur le plus fréquent de l'enfant. Il y a 4 enfants qui naissent tous les jours, qui vont vivre toute leur vie avec les conséquences de cette pathologie. Mais ça n'est qu'un enfant sur 500. Ça veut dire qu'un médecin généraliste, il en voit peut-être un de temps en temps, donc c'est difficile pour lui de se projeter. Après, l'intérêt de l'accès à un spécialiste, c'est qu'effectivement, le spécialiste, il est en capacité de se projeter. Il en a vu, il devient. Donc ça, effectivement, sur cet aspect-là, c'est utile. Et puis la troisième situation, vous tombez encore sur des gens qui sont extrêmement durs, qui n'ont pas de sensibilité à ce type de situation de problème. Donc les choses sont complexes pour les familles.
Alors, on a entendu dans le reportage, je crois que c'est Léa qui est kiné, qui racontait les critiques exprimées par certains professionnels avec ce mot de dressage pour qualifier cette éducation intensive. Vous-même, Wafia, vous avez été un peu heurtée au début par la méthode.
Oui, pas par la méthode, mais c'est vrai que de voir les enfants... vraiment faire l'effort, hein, sentir qu'il faisait ses efforts et que c'était répété. Et puis finalement, ce dont je me suis rendu compte assez rapidement, c'est qu'ils étaient contents qu'on soit exigeant avec eux, en fait. Qu'on leur demande de faire l'effort, de se sentir fort et de se sentir capable. C'est ça, hein, se sentir capable. Et on sentait que c'était très important pour eux, qu'il y avait vraiment un retour très positif pour eux.
Et puis les kinés tiennent quand même compte de la fatigue des enfants.
Absolument, il n'y a pas de torture.
Alain Châtelain, vous comprenez les réticences vis-à-vis de cette méthode ?
Alors, si vous voulez, les méthodes intensives n'ont pas eu bonne presse parce que quand on réunissait il y a quelques dizaines d'années les voisins pour stimuler le plus longtemps possible les enfants dans la journée, c'était de la maltraitance. Il faut être clair, ça a été abandonné, ces méthodes, ça ne se fait plus. Là, c'est du jeu. Et puis, une chose qui a été bien dit, c'est vous qui fixez l'objectif. Alors là, c'est des tout-petits, hein, que vous avez vus, mais quand ils sont un peu plus grands, c'est eux-mêmes qui fixent l'objectif. Et ce n'est pas l'objectif du kiné, qui est de... Il faut que ton genou fléchisse un peu plus ou un peu moins. C'est... je veux aider à me tenir debout, et puis si je veux me tenir debout, elle ne l'a pas dit, mais... C'est en classe pour être à hauteur avec les copains. Si je veux, pour un autre stage avec des plus grands, une petite était venue avec son objectif, c'était de porter son plateau à la cantine. C'est concret, c'est pas de savoir est-ce que tu arrives à tourner ta main et il faut répéter le mouvement pour fléchir le coude un peu plus. Donc non, c'est ludique. Les objectifs sont réévalués plusieurs fois dans la journée pour proposer des exercices qui sont atteignables. Mmh. C'est important qu'il n'y ait pas de déception où ils réévaluent les choses. Donc, on comprend qu'il y ait des résistances. Les gens qui sont informés voient que ça se passe bien. Les enfants sont heureux d'avoir atteint leurs objectifs. il y a vraiment beaucoup de choses à espérer de ce qui se fait là.
Et pour achever de balayer les critiques, c'est toute l'importance, vous le disiez, d'apporter les preuves de l'efficacité de cette méthode, la validation clinique. Donc là, c'est vraiment cadré. Il y a d'ailleurs un groupe témoin. Hein.
Tout à fait. Il y a un tirage au sort au début pour effectivement voir qui va recevoir entre guillemets la méthode Habitil tout de suite et qui va continuer de façon conventionnelle, sachant que à ces enfants-là, on proposera un stage Habitil un peu plus tard dans leur cursus.
Alors, je repense à Simon, le père d'Auguste, qui aimerait bien éviter à son fils 80 ans de kiné et qui est donc pressé que cette méthode se généralise. Ça pourrait se faire vite? On en est à quel stade exactement? Quel est le calendrier?
Alors, on aimerait bien pouvoir fixer un calendrier, mais c'est très difficile de... il faut être clair, il y a des exigences scientifiques en termes de validation, mais... Au fond, le travail qui est fait actuellement, il va apporter des résultats d'ici 2 ans. Si dans 2 ans, on vient avec des résultats positifs et que à ce moment-là seulement, on commence à se préoccuper de savoir si on pourra mettre en place la méthode, ça va mal se passer. Donc là, il faut que le ministère de la Santé se pose la question. Mais le ministère de la Santé, il ne veut pas recevoir les associations de personnes handicapées. Le handicap, c'est le secrétaire d'État qui s'en occupe. Mais secrétaire d'État, la santé, ce n'est pas son sujet. Donc on est dans un système où il va falloir rendre les stages accessibles. Personne n'a prévu de financement pour de la rééducation intensive sur 2 semaines. Donc le directeur de l'hôpital, d'un endroit où il y a des stages, il est venu voir le médecin, il lui a dit « bon ben c'est bien joli, mais quand est-ce que ça s'arrête ? Parce que ça coûte. » Alors heureusement, c'est dans un programme de recherche, c'est nous qui finançons. Mais après, il faut bien qu'on s'intéresse à une tarification, à des modalités, à la formation des professionnels, que ça rentre dans une... Et il faut l'anticiper dès maintenant. Donc oui, on voudrait que ça s'ouvre. On est tout à fait conscient des exigences de méthode. On a pris contact avec la HAS, avec un groupe d'associations pour la Haute Autorité de Santé, pour lui demander de se pencher sur l'évaluation des méthodes de rééducation. Mais il faut anticiper. On ne va pas attendre, une fois qu'on aura les résultats, 5 ans ou 10 ans, que les choses se mettent en place. C'est inaudible pour les parents.
Vous parliez des moyens financiers. Quel est le coût d'une prise en charge comme celle-ci par rapport à une thérapie conventionnelle ?
Alors c'est difficile d'évaluer le coût pour ces stages, parce que là on est dans un programme de recherche, mais si vous voulez, si vous pensez qu'une session de kinésithérapie c'est moins de 25 euros actuellement en kinésithérapie libérale, donc on peut penser que ça va être quelques centaines ou plus d'un millier d'euros pour un stage comme celui-là. Ça va pas coûter non plus des sommes extraordinaires, ça peut peut-être être 1 000 ou 2 000 euros, on n'a pas fait encore l'évaluation précise.
Et le raisonnement, c'est que ce serait une source d'économie sur le long terme, s'il y a effectivement des progrès avérés grâce à ces stages intensifs. Ou on ne raisonne pas comme ça?
Mais non, on ne raisonne pas comme ça, c'est consternant. Si vous voulez, on est dans une pathologie. Qu'est-ce que c'est que la paralysie cérébrale? Ce sont les conséquences qui vont durer toute la vie de dommages qui surviennent sur le cerveau autour de la naissance. On pourrait dire que sur quelque chose qui embolise notre système social, on se préoccupe de réduire le problème. Est-ce qu'on consacre des moyens de la recherche à la prévention ? C'est l'épaisseur du trait. C'est pas un sujet pour la puissance publique. Est-ce qu'on a une stratégie pour déterminer les thérapies et les mettre en œuvre ? Ben non, pas vraiment. Donc oui, il faut s'emparer de ces sujets, et à ce moment-là, oui, on aura des bénéfices. Le premier bénéfice, il est dans la vie des enfants. Ils ont une force extraordinaire, ces enfants. Ils ont un appétit de vivre. Quel gâchis c'est de pas leur offrir les opportunités de leur vie.
Et puis, je me permets, des familles, parce que passer la semaine, le lundi chez l'ergo, le mardi chez le kiné, le mercredi chez un autre spécialiste, ça coupe la vie sociale des enfants et de la famille.
Et l'inquiétude pour l'avenir de son enfant, la charge mentale également. Vous parliez de la prévention. Il y a quand même des progrès pour prévenir la paralysie cérébrale.
Alors oui, il y a des progrès. Si vous voulez, ça se fait tout doucement la réduction de la fréquence de la paralysie cérébrale. Ça n'a pas bougé pendant très longtemps. Et puis, il y a des améliorations de la réanimation. Il y a des choses toutes bêtes qui ne sont pas des techniques compliquées. Mais par exemple, ça n'a l'air de rien, mais la présence des parents. Par exemple, au contact de l'enfant, on s'est aperçu que ça a une influence sur le pronostic.
Le
pot à pot. Le pot à pot, par exemple, pendant le séjour en réanimation. La prévention ou le traitement de la douleur a aussi une importance sur le pronostic. Donc, c'est des petites choses, mais c'est toute la qualité des soins intensifs. Après, quelle recherche il y a actuellement en France pour évaluer des médicaments ou des traitements qui pourraient réduire l'extension des lésions cérébrales à la naissance? Il y a très peu de choses qui sont faites là-dessus. Donc il y a besoin de programmes, il y a besoin de recherches. C'est pour ça que nous, on se mobilise, mais il faut qu'on soit beaucoup à se mobiliser.
Alors que justement, il y a des pistes, des recherches prometteuses?
Alors, vous avez des recherches prometteuses qui sont celles qui vous ont été présentées là autour de Yannick Bleyeneuf, Sylvain Brochard, Michael Dinomé et d'autres là qui sont dans ce projet pour la rééducation intensive avec le jeu. Il y a des questions qui se posent aussi sur certaines approches chirurgicales pour jouer sur le tonus nerveux ou d'autres sujets.
Donc justement, la chirurgie, ça peut être une solution parce qu'il y a parfois là aussi des méthodes un peu décriées.
Il y a des besoins chirurgicaux, il y a des choses qui sont décriées à juste raison, il y a des choses qui doivent être évaluées, il y a des choses qui sont utiles. Donc il faut pouvoir travailler sur ces sujets. Et en matière de prévention, par exemple, de prévention des lésions cérébrales, on a montré que chez les enfants qui ont une asphyxie à la naissance à terme, par exemple, si on organisait une baisse de la température du cerveau, on refroidit le cerveau avec des petits circuits d'eau froide, on les baisse à 32 degrés, on réduit la fréquence du handicap de 20%, par exemple. Donc oui, il y a des approches.
Ça, c'est ce possibles. Qu'on appelle l'hypothermie, c'est ça?
Voilà, c'est de l'hypothermie contrôlée. Pour ces tout petits, mais bon, ça marche dans les naissances à terme, ça marche pas chez le prématuré. Donc il y a d'autres approches qu'il faut pour ces enfants-là.
Il faut continuer d'explorer. Et puis l'apport des nouvelles technologies peut être important aussi.
Alors, bien sûr, on est avec ces réflexions. Il y a un projet mené par certaines de ces équipes pour développer une plateforme d'échange, justement, qui implique les familles, les ingénieurs et les professionnels du handicap. J'espère que c'est un projet qui pourra être financé, mais justement pour impliquer très précocement les familles dans le développement des technologies, comment aider les ingénieurs à résoudre les problèmes en les connaissant mieux, et puis comment explorer de nouveaux usages. Oui, il y a des projets dans ce domaine-là au niveau européen. On essaye d'y participer avec les équipes bressoises notamment qui s'impliquent là-dedans, par exemple.
Très concrètement, qu'est-ce que c'est? Des robots, des exosquelettes?
Ça peut être un peu tout. Ça peut être des synthèses vocales parce que vous avez des difficultés d'élocution telles qu'on a du mal à vous comprendre. Il y a la question des exosquelettes qui se pose, pas forcément tellement dans notre pathologie où il y a plutôt des problèmes de contrôle moteur, mais il y a plein d'innovations possibles pour aider au repérage, pour les gestes de la vie quotidienne. Et voilà, on espère qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Mais pour ça, voilà, il faut des financements, il faut de l'énergie et il faut se donner des objectifs ambitieux en matière de progrès et de recherche, que ce soit par l'énergie, la volonté des familles qui se mobilisent, comme par le fait que les pouvoirs publics soient interpellés sur ces sujets. Il y a des programmes où on dit qu'il faut développer de l'activité, il faut développer nos entreprises. Il y a plein de sujets pour des laboratoires de recherche et d'ailleurs pour des entreprises.
Et est-ce qu'il y a des pays inspirants pour la France ?
Alors, il y a des pays inspirants pour la France. Il y a un vrai renouveau en France avec de jeunes équipes. En Australie, il se fait beaucoup de choses. On a importé, il y a une opération sympathique qui s'appelle September qu'on a importé d'Australie pour faire bouger tout le monde pour la paralysie cérébrale et rassembler des moyens, par exemple. Et les Australiens sont très en pointe aussi sur l'implication des familles pour avoir l'idée que l'important, c'est la participation des personnes dans la vie, comment on peut améliorer cette participation.
Alors, September, en France également, c'est tout le mois de septembre. Les participants sont invités à marcher 10 000 pas par jour au profit de la recherche sur la paralysie cérébrale. Merci Alain Châtelain. Quand
Merci
le jeu réduit le handicap, une thérapie innovante pour les enfants atteints de paralysie cérébrale, le grand reportage de cette semaine était signé Wafia Kenish avec Olivier Arnay à la technique et Annie Brault à la réalisation. Merci à l'équipe de documentation de Radio France et vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.